Les échos de la Busserine, tous les derniers jeudis du mois en direct au sein du comité Maméga. Aujourd'hui, jeudi 26 octobre, hein, voilà. Les échos de la Busserine, comme vous le savez, sont produits et réalisés par le comité Maméga et Radio Galère en direct. Je tiens à remercier le technicien Sidi qui est toujours là présent. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, la thématique, c'est coup de projecteur sur les habitants de Picon. Voilà, en présence de Nadira Amskri, voilà, je vous donnerai la parole après, et Farida Gawa, qui fait partie de l'association Vision de Femmes de Picon, on en parlera tout à l'heure. Juste avant, on va parler de l'association du comité Maméga, je passe la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu peux parler un petit peu de la structure, s'il te plaît?
Bonjour. Merci. Bonjour, alors dans le cadre du comité Maméga, nous travaillons sur la mémoire sur le territoire. Donc après avoir mis un coup de projecteur sur les habitants du quartier, nous nous attardons maintenant sur le territoire. Et dans ce cadre-là, donc, à partir de témoignages, nous allons essayer de vous présenter un petit peu le quartier de Picon, tel qu'il a été hier et tel qu'il est aujourd'hui, à travers le regard de ses habitants.
Pour continuer sur la thématique Picon, on va commencer à donner la parole. Farida, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation.
Sans problème.
On va parler de Picon. Jean-Pierre, est-ce que tu peux poser des questions sur Picon?
Je voudrais savoir à quelle année Farida est arrivée donc, sur ce quartier de Picon et à l'époque, quel a été son regard?
Alors moi, je suis arrivée en 1987. Je venais d'une région qui est de la Franche-Comté, Besançon. Alors, je ne vous dis pas le choc quand je suis arrivée à Picon. Ces grands immeubles, c'est un changement total par rapport à où j'étais, où il y avait beaucoup de verdure et que des petits immeubles. Autrement, ben voilà, je suis arrivée, je me suis intégrée avec tous les habitants. Picon, c'était bien. Je vous parle de ça, donc il y a 30 ans.
Mixité sociale aussi.
Il y avait, oui, oui. On était, nos enfants étaient à bas âge, donc on se côtoyait beaucoup. Il y avait de toute origine en plus. Donc, c'est pas par rapport à maintenant. Vous voyez, il y a une différence. Il y a 30 ans, quand on revient maintenant au futur. Le passé était bien, c'était convivial. Il y avait beaucoup de rapports avec les centres sociaux, les associations, même avec les logeurs. Hein, on avait quand même pas mal d'échanges. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus?
Quelle était la plus-value à ce moment-là? Au niveau du quartier, quelle était la plus-value par rapport à ce que vous avez connu au niveau de l'habitat, au niveau du cadre de vie? Quelle a été l'attractivité? Pourquoi ce quartier? Pourquoi Picon? Et voilà.
Mais éventuellement, Farida, si tu peux pas répondre, Nadira qui est là. Nadira, si tu peux nous répondre, toi qui es aussi habitante de quartier.
Ouais, je répondrai après.
Par rapport à la question qui vient de soulever, Jean-Pierre, si tu peux la reformuler, Jean-Pierre.
En quelle année elle est arrivée? Bon, je suis arrivée sur le quartier en 1989 par le biais d'une... comment dire? C'était une demande de logement faite par le biais de la mairie du 13-14, par ce qui n'est pas, comme la plupart, par la logique. À l'époque, c'était Marseille Habitat. Ah oui, c'est vrai, c'était la SIC. Donc tu vois, j'ai oublié. C'était la SIC avant Marseille Habitat. Et c'est vrai que sur le quartier, c'était un quartier avec beaucoup d'enfants jeunes. Et on avait des espaces verts, beaucoup d'espaces verts. Des endroits où se retrouvaient, nous, les mamans. Chose qu'on a perdue en effaisant. Je crois que c'est le plus gros regret des habitants de Picon, c'est d'avoir d'espaces verts. Voilà. Donc quand on est arrivé, on avait cette grande pelouse où on pouvait se retrouver toutes les fins d'après-midi, après la sieste de nos enfants, la cage à poules, les balançoires, les balancettes, les petits... ces espèces de chevaux là, qui sont en ressort avec ce bout de goudron. C'était, voilà. Et c'était sur la pelouse. Il n'y avait pas encore...
Le petit parc. Il n'y avait même pas le parc.
Il y a eu... Quand ils nous ont tout enlevé, on nous a mis deux barres, pardon, on nous a mis deux barres en métal pour faire les cages de foot.
Oui.
Sur un terrain en pente. Oui. Bon, les enfants s'amusaient quand même, hein, mais oui, voilà quoi. Oui. C'était un peu illogique. On avait de moins en moins de pelouse. Et cette pelouse, elle en a vu des gens. Oui. Elle en a vu des pique-niques. Elle a vu des soirées à thème faites par le centre. Elle a vu des guinguettes passer. J'ai un peu la nostalgie de ces jours-là, parce que c'était, comme disait Farida, un moment de convivialité et aussi de solidarité. Cette solidarité qui se perd aussi
Il y avait un vivre ensemble.
C'est ça. Il y avait pas, même si ta porte était fermée, elle n'était pas vraiment fermée parce que ton voisin de palier avait besoin de quelque chose, il venait taper, quelle que soit l'heure. Moi, je me souviens de Régine. Sur le même palier que moi, qui venait toquer. T'aurais pas un litre de lait pour les enfants ? C'était pas... voilà, je veux dire, c'était pas le coup de lui donner le litre de lait, mais c'était de savoir qu'elle pouvait compter sur quelqu'un quand elle était un peu serrée en fin de mois, ou compter sur sa voisine pour un peu de sel, ou... Voilà, quoi, ce sentiment qu'on connaissait déjà dans les anciens quartiers, que j'ai retrouvé quand je suis arrivée à Picon, et qui se perd maintenant, petit à petit, parce qu'on s'enferme.
Même les commerces.
Ah ben oui, les commerçants te laissaient partir.
On avait
aussi
tous les commerces qui étaient quand même... c'était notre famille, on vivait... bon, moi, je parle de Picon, mais même la Busserine. On était... moi, je disais, ma famille, elle est à côté de moi, c'est mes voisins. Moi, parce que je vous dis que ma famille était dans la Franche-Comté, la personne que j'avais le plus besoin, c'était ma voisine, vous voyez. Puis même les enfants, ils étaient innocents, je veux dire, on les laissait sortir facilement. On avait...
Il n'y avait pas à l'époque de sentiment d'insécurité.
Ah non, l'insécurité n'existait pas à l'époque. Hein.
Non.
Je vais vous dire, on laissait nos enfants facilement, puis même on restait avec eux. Mais je vous dis, il n'y avait pas après ces attroupements devant les cages d'escalier qui est venu plus tard. Mais même, je veux dire, même quand il y avait des jeunes, c'était une jeunesse qui pensait aller sortir, aller, c'est le vendredi soir, on va aller soit en boîte, ou vous voyez, c'était pas... Et puis non, c'était vraiment... Moi, je regrette, même, je pense que beaucoup de gens de mon âge voient le passé était mieux que le futur. Hein.
Une nostalgie. Il y a une certaine nostalgie, en fait.
Ben, une nostalgie, puis je veux dire... vous savez, pour moi à mon vue, à l'heure actuelle, je pense que les enfants de maintenant, ils ont peut-être tout, mais... C'est un danger qui les attend. Comment vous expliquer ? Avant, c'était... Peut-être que on était innocents.
Les gens étaient plus innocents, pense.
Oui, oui, oui. On ne voyait pas le mal partout. On ne voyait pas... on ne pensait plus à... on ne pensait pas, il y avait de la délinquance, mais ce n'était pas une grosse délinquance, hein, je veux dire. Hein. Maintenant, je veux dire, il y a des endroits, quand ce n'est pas bien éclairé, vous n'osez pas sortir, puis c'est tout, il faut dire ce qu'il y a. Nous, à Picon, jamais, jamais, j'ai entendu qu'un livreur s'est fait agresser ou que le facteur s'est fait agresser, alors que c'était des fausses rumeurs. Les quartiers nord, c'est pas... Quand vous entendiez les gens des quartiers sud ou de parler des quartiers nord, on aurait dit que dès que vous arriviez dans le quartier nord, on allait vous tuer.
C'est vrai que ce que tu viens de soulever, Farida, par rapport au facteur, oui, il venait avec une sacoche pleine d'argent.
Oui. Ramener les mandats, les allocations.
Effectivement, c'est vrai que c'est une époque. Et quand tu vois ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus le même cas.
On va s'attarder un peu plus sur le passé. Sur le passé,
justement, pour revenir sur le passé, je voulais savoir, vis-à-vis des habitants qui étaient là, présents, il y avait quand même un vivant ensemble et tout, et vis-à-vis des institutions comme les logeurs que vous aviez, est-ce qu'il y avait plus de facilité de communication avec eux qu'aujourd'hui ou pas ?
Ben, moi, oui. Moi, je trouve qu'à l'époque, déjà, on avait le bureau qui était à côté. Je veux dire, et c'était ouvert du matin jusqu'en fin d'après-midi. Donc, il y avait ça. Il y avait beaucoup de personnes âgées parce que c'est des gens qui sont venus habiter dans les années 60, 62. Hein, je pense que c'est par rapport au rapatriement d'Algérie, donc beaucoup de pieds noirs. Mais on vivait bien. Moi, je suis peut-être arrivée après, mais les anciens qui ont vécu à Picon disent que bon, déjà, ils avaient un logement meilleur que les bidonvilles. Ils avaient de l'eau courante, ils avaient quand même plus une facilité. L'école, il y avait des écoles au choix. Je veux dire, à l'époque, on pouvait ramener nos enfants dans l'école où on voulait. On ne nous imposait pas. Hein. Et je vous dis, il y avait comme le bus pour amener les familles à la plage. Il y avait plus de facilité pour les familles. Il y avait toujours le centre social parce qu'on faisait, il y avait la PMI pour les enfants, pour la pesée des bébés, pour les vaccins. Tout ça, ça s'est perdu. Maintenant, c'est des maisons médicalisées, je ne sais pas quoi, là, mais c'est pas...
Est-ce qu'on peut parler, Nadira, de comment était dans la vie, vous êtes en train de nous la décrire. Est-ce qu'on peut parler de sentiments d'appartenance et de sentiments... Est-ce que vous pensez que vous étiez heureux à ce moment-là, à cette époque-là?
Oui. On avait un sentiment d'appartenance à un quartier, pas spécialement, mais plutôt à une grande famille qui était celle, comme disait Farida, celle des voisins, où on pouvait compter les uns sur les autres, où on n'avait pas ce sentiment d'être complètement tout seul. Parce que dès que tu étais pas bien, même si c'était pas besoin d'être le financier, tu pouvais ne pas avoir le moral, ben tu allais toquer chez ta voisine, tu prenais un café, elle avait l'oreille bienveillante, tu lui racontais un peu tes déboires, peut-être qu'elle avait la solution ou peut-être pas, mais elle t'avait écouté, donc tu repartais avec un peu plus de meilleure humeur, on va dire, et tu repartais un peu plus boosté pour un avenir serein. Comme disait Farida, on était, je dirais pas peut-être innocent, mais on voyait pas les tant de mal que ça. Nos enfants, ils étaient petits, donc on avait toujours le même entourage, des mamans avec des enfants. Et quand ils ont commencé à grandir, bon, ben c'était toujours les mêmes enfants, ils allaient dans les mêmes écoles, avaient les mêmes activités. La plupart de leurs activités du mercredi, quand c'était pas le foot, ben c'était du vélo en bas à la cité, ou alors quand ils allaient ou à la plage. Après, c'était le centre social. C'est vrai que pendant longtemps, on avait le centre social à Picon. Et comme disait Farida, on avait beaucoup de facilité parce qu'on avait et le centre social, la PMI, les assistantes sociales qui étaient sur place. Le fait que le centre est fermé, ça nous a un peu à ce moment-là enclavés.
Alors, en vous entendant parler, on a l'impression que nous avons fait, malgré la réhabilitation, le quartier, enfin, la vie sociale a quand même beaucoup évolué, un sentiment d'isolement. Puisque vous parliez quand même d'assistante sociale sur place, de PMI, oui. Le médecin aussi, le dentiste aussi était sur place,
oui.
les petits commerçants. Donc malgré la modernisation, j'ai l'impression quand même que l'on a fait un petit peu marche arrière. Est-ce que Nadira et Farida, est-ce que vous pouvez nous parler de la composition communautaire de la population à cette époque-là? Quelles étaient les origines,
oui.
Donc nous, dans Picon, il y avait beaucoup d'Européens. Hein. Il y avait des Italiens, il y avait...
Quelle année?
Alors moi, je vous dis, avant, parce que je suis arrivée en 88. 88, moi, il y avait énormément d'Européens. Et le jour qu'ils ont commencé, ben, c'est bien simple. Chaque fois qu'un Européen déménageait, on nous mettait un Noir et un Arabe. Non, mais je dis, je suis algérienne, mais je le dis. Je dis, on essaie de nous faire, on nous a mis dans un ghetto. À la limite. Comme ça, on nous a parqués. Comme ça, on ne sort pas de chez nous, vous voyez ? on a tout à côté, on a toutes nos origines qui est à côté. Si de temps en temps, bon, on peut aller en centre-ville pour s'aérer. Mais
Est-ce qu'on peut parler de sentiment d'exode par rapport à la population blanche, disons les choses telles qu'elles sont, puisqu'en fait, nous sommes tous français, mais les Européens d'origine italienne, espagnole, etc., progressivement,
sont
les ouvriers
sont partis,
a déserté un petit peu le quartier.
Oui.
Ce qu'il faut soulever aussi, c'est que ces années-là, ces gens-là, c'était plus ou moins des fonctionnaires qui avaient un emploi plus ou moins aisé, et ils ont accédé à la propriété. C'est vrai que ensuite, ces logeurs ont fait venir, malheureusement, ces gens-là d'origine des Français, mais d'origine maghrébine.
Oui.
Et c'est vrai que ça a posé problème ensuite. Pourquoi ne pas faire revenir des Européens qui ont le même statut social qu'un immigré, qu'un Français d'origine algérienne.
Il y avait surtout beaucoup de familles nombreuses et des familles d'ouvriers aussi dans le quartier.
Oui, je dis effectivement, mais je vais dire même mieux, c'est que la population à l'époque, comme tu disais, les personnes d'origine, enfin françaises, qui partaient un peu cet exode de blanc, entre guillemets, c'est vrai qu'il y avait l'accès à la propriété. Beaucoup sont partis sur leur propre maison. Mais les premiers demandeurs à l'époque de logement, sachant que c'est des logements sociaux, restent aussi les familles nombreuses et d'origine maghrébine ou autre. Donc je pense que c'était aussi pour eux qui arrivaient aussi du centre-ville, puisqu'à l'époque, c'était au moment des travaux aussi sur le centre-ville. Et donc, il y a aussi cette masse de personnes qui revenaient vers les quartiers nord. Mais après, je pense aussi que c'est un choix politique.
On ne sait pas si on veut parler de revenir vers les quartiers. C'est surtout, politiquement parlant, la ville a fait le choix de déplacer les familles nombreuses et de les installer dans les quartiers nord.
C'est ça. Pour plus de facilité. Et d'ailleurs, on a fait en sorte qu'on ait le plus de commodité possible, pas trop loin, et d'éviter le centre-ville, qui allait avoir un nouveau visage. Donc, on nous a fait le continent, n'est-ce pas, grand littoral, pour qu'on ait un grand carrefour. Oui, Carrefour, c'est le premier. Carrefour est le premier dans les années 70. Donc, déjà, Carrefour, c'était super. On avait une grande enseigne, pas trop loin. Ça nous changeait des petits commerces. Mais après, je veux dire, c'est... Carrefour, avec sa galerie, n'était peut-être pas assez grande pour le nombre de personnes qu'il y a sur le territoire. Parce que, en termes de territoire, parce qu'en comptant Picon, Busserine et tous les quartiers autour, c'est pas assez grand, Carrefour Le Merlin.
Ceci dit, quand Carrefour Le Merlin a été créé, le quartier n'avait pas l'amplitude qu'il a à ce jour.
Non.
Puisque progressivement, à l'époque, donc, c'était une colline qui se déclinait jusque vers Fontvert, avec les anciens bidonvilles de Fontvert. Donc progressivement, la Benosse a été créée, Flamand Iris, Le Mail, etc. Ouais. Mais à l'époque, campagne Picon, cela donc veut dire... c'était vraiment
des
espaces verts et donc
beaucoup
la
d'espaces
banlieue,
verts, voilà. Et d'ailleurs, c'est le... Mais le choix de construire comme ça des grands blocs de bâtiments et aussi coller les uns aux autres, est-ce que c'était judicieux? Même si c'était pour faire de l'habitation sociale. C'était ça le... Cet enclavement, créer encore un enclavement, pourquoi ?
On peut parler d'enclavement, mais si vous regardez par rapport à d'autres banlieues lyonnaises, parisiennes, nous, on a quand même la chance d'avoir des petits noyaux villageois avec quelques immeubles autour. C'était pas quand même les grands ensembles qu'il y a à Hominguette, à Rieux-la-Pape, à Voie-en-Velin, etc. Donc, l'infrastructure est différente. Quels étaient les besoins de la population à ce moment-là ? Farida ou Nadira, quels étaient les besoins? Quels étaient vos... on est venu habiter donc dans les grands ensembles, enfin Picon, parce que justement il y avait cette infrastructure urbaine qui pouvait accueillir des familles importantes. Mais quels étaient d'autres avantages de venir à Picon?
Déjà dans Picon, on était bien desservis, ne serait-ce que pour aller en centre-ville. On avait deux... Sur Picon, il y a 4 bus. Bon, ben, 2 qui vont vers le métro et 2 qui vont sur le centre-ville.
Il y avait le 38.
Il n'y avait pas le métro. Ah, quand je suis arrivée en 89, c'était le début. Hein.
Il y avait Bougainville.
Et à l'époque, c'était le 38.
Ouais, ouais.
Le 29. C'est le 29 qui allait jusqu'au centre-ville.
Ce qui est important aussi, il y a un bus particulier qui est le 33. C'est grâce aux habitants. Des quartiers de la Busserine, Picon, qui ont fait en sorte d'avoir ce fameux bus. Parce que avant, quand il y avait le plein emploi, il y avait la construction de la Busserine, il y avait la construction des Flamands, il y avait la construction de Saint-Martin-du-Trois.
Justement, un petit voilà. Dans les quelques années avant, puisque tu parles des années 89, donc je comprends pourquoi deux bus, deux lignes de métro, effectivement. Donc, à le moment où tu es venu, c'était bien, bien desservi. Mais c'est vrai qu'on a connu le quartier, nous, beaucoup plus enclavé, avec aucun moyen de circulation pour aller au centre-ville, puisqu'il n'y avait pas de bus. Le 31 n'existait pas. Là, il y avait le 33 ne passait pas. Voilà, donc on pouvait prendre le bus à Sainte-Marthe, mais il n'y avait rien, voilà. Il n'y avait pas le 38, il y a la gare. Voilà.
La gare
on va faire une pause musicale et on se retrouvera après. Voilà.
Le balai, le balai, le balai.
toujours en direct, les écoles à Busserine, jeudi 26 octobre, ici au sein du comité Maméga, en présence aussi de deux demoiselles stagiaires à la MFA, qui est Aïda
et Sophie,
qui sont venues écouter l'émission. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Et une camarade qui est là, qui vient tout le temps, qui est là présente aujourd'hui, et je tiens à la remercier aussi. Réalisé et produit par le comité Maméga et Radio Galère. Voilà, aujourd'hui la thématique c'est coup de projecteur sur les habitants de Picon. Je laisse la parole à Jean-Pierre.
Dans le cadre de ce regard croisé sur Picon, est-ce qu'on peut dire, Nadira et Farida, est-ce que vous avez choisi le quartier de Picon? Quelles ont été les circonstances de votre attribution de logement? Est-ce que c'est vous qui avez choisi les quartiers nord Picon, ou est-ce que, justement, de façon anecdotique, racontez-nous un petit peu quels ont été les choix de vos logeurs et de vous-même?
Alors, moi, je vais commencer, je vais vous dire. Moi, comme je vous expliquais, je venais de la Franche-Comté. J'ai été hébergée quelques mois à Marignane. Donc, il me fallait un logement. J'avais deux enfants. Il fallait absolument que... Donc, on m'a présenté quelqu'un qui faisait partie de la SIC. Et donc, j'ai déposé une demande et on m'a proposé... La personne m'a dit, est-ce que ça vous dérange d'habiter dans le quartier nord? Alors, moi, je lui ai répondu, mais vous savez, nord, ouest, sud, peu importe. Moi, je ne savais pas, qu'est-ce que ça voulait dire, quartier nord. Donc, je suis venue à Picon, dans cette grande tour. La première impression que j'ai eue quand je suis rentrée, j'avais l'impression que je rentrais dans une prison, alors que je n'avais jamais été dans une prison de ma vie. Mais d'après les films et tout, je me dis, ça, je ne resterai pas longtemps. Et bien, voyez, de 88, je suis encore là. Je suis encore à Picon. Et pour rien au monde, je partirais parce que j'ai tous mes repères qui sont ici. J'ai tous mes amis, j'ai tous mes voisins. Même que mes enfants ne sont plus avec moi. Mais on me dit, tu ne veux pas partir? Je dis, je vais repartir. Je ne repartirai jamais dans la Franche-Comté. Dans les quartiers sud, je ne partirai pas parce que déjà d'une, pour y accéder, il faut déjà avoir un... soit rentrer, passer par le privé, et puis même, je vais me mettre à la fenêtre, qu'est-ce que je vais voir? Toujours la même chose, du béton, des gens que je ne connais pas, que là, bon, je me mets à la fenêtre, j'ai toujours une voisine, un petit jeune, bonjour tata. Vous voyez, c'est ma vie maintenant.
Alors, moi, je suis arrivée à Picon pour... en fait, je venais de me marier, j'avais fait une demande... J'allais me marier, j'ai fait une demande auprès de la mairie pour avoir un appartement, mon premier logement. Il a été attribué en août 1989.
Combien de temps après, à cette époque?
Ah, c'était très rapide, je crois que c'est 4 mois. Dans les 4 mois, j'ai eu ma réponse. J'ai déposé un dossier en mairie de secteur. 4 mois après, j'ai eu ma réponse, je suis venue visiter. Pareil que Farida, je suis arrivée à la tour dans ce gros ensemble alors que j'avais pas l'habitude d'habiter dans des... Je connaissais les grandes tours puisque j'ai grandi, on va dire, j'ai passé ma petite enfance dans le quartier de Félix Piat, 143 de la rue Félix Piat, mais j'habitais dans les petits bâtiments, donc 4 étages. C'était ce que j'avais l'habitude de voir, c'était mes repères, c'était 4 étages. Et quand dans mon adolescence, c'était j'arrivais de la Rousse. Et la Rousse, c'était pareil, c'était un petit 4 étages. On habitait au 3e, on était bien.
Campagne à la Rousse, pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui, on reste dans le 14e, hein, donc je ne me suis pas très éloignée. Et je ne voulais pas être trop loin non plus de mes parents, parce que mon papa vieillissait et était très malade, donc je ne voulais pas être trop loin non plus. Donc voilà, je suis arrivée, pareil, au bout de 4 mois, à la tour de Picon, au 18e étage. L'horreur. 18e étage, mais tu voyais la pelouse. J'avais pas la mer, moi, par contre, en vue. J'aurais pu, hein. Mais la taxe d'habitation, elle aurait été aussi conséquente. Voilà.
J'ai l'impression que les attributions d'appartements avant, Jean-Pierre, avaient plus de facilité.
Cela n'a rien à voir. Maintenant, non, moi, c'est pas deux mois, c'est 10 ans, 8 ans, 6 ans, c'est courant pour beaucoup de locataires, donc ça peut rien avoir. Mais on se rend compte quand même à travers ces deux expériences-là que le quadrillage géographique n'est pas neutre. Quand on parle de ghetto, le ghetto ne naît pas de lui-même, le ghetto, on le crée. Donc merci à vous, messieurs les politiques. Malgré tous vos efforts pour ghettoiser ces quartiers, la vie sociale prend le dessus, puisque Farida nous dit qu'elle ne quitterait le quartier pour rien au monde.
C'est clair.
C'est une discrimination de territoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, et c'est ça, voilà, quand on voit ça. Et la colère des habitants, on l'entend pas d'aujourd'hui, on l'entendait d'hier. C'est vrai qu'hier, il y avait une forte mobilisation d'habitants. Ils se concertaient entre eux, ils se mobilisaient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Voilà. Je ne sais pas si on peut parler de colère d'habitants dans le passé. Moi, je dirais plutôt qu'il y avait une prise de conscience des habitants, il y avait une vie participative à l'époque de... Séverin Montarino qui a travaillé à l'époque du père Maurice, parce que l'église dans les années 60-70, la paroisse Sainte-Claire a joué quand même un rôle de lien social très très fort, fédérateur, puisque beaucoup de jeunes de Picon, Bagnat, Karima Corich, Adjeri, tout ça, ces familles-là, ces vieilles familles de Picon, ont connu justement les activités, l'animation que donnait, qui était menée par les prêtres de la paroisse et les prêtres ouvriers.
Prêtres ouvriers, effectivement. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler, Farida et Nadira, peut-on parler d'âge d'or de cette cité? Et si oui, à quelle période la situez-vous?
Oula. Alors l'âge d'or de la cité Picon, c'était avant que j'arrive, en tout cas, c'est sûr et certain, puisque moi j'ai des retours d'un ancien habitant qui me disait qu'à l'époque où lui est arrivé dans la cité, il y avait, le jardin était fermé. Il y avait des rosiers plantés et tu avais un horaire pour accéder au jardin. Et si tu rentrais pour faire le méchant, tes parents pouvaient avoir une amende. Et c'est pour dire que c'est vieux, c'était l'époque du franc. Hein. Donc 50 francs, ça faisait mal au porte-monnaie des parents.
65.
Voilà, 60, c'est ça. 60, et 60. C'est Monsieur Émile qui m'en parlait et qui me disait que si tu avais eu le malheur de descendre avant la sieste de l'après-midi, c'est-à-dire descendre au jardin avant 16 heures, tu pouvais te prendre un PV pour avoir abusé du jardin. Et les animaux étaient interdits dans le jardin parce qu'il fallait pas qu'il y ait de saleté. Voilà. Donc c'était un jardin vraiment... Bon, c'est vrai qu'on a la nostalgie du jardin, mais je pense qu'on a la nostalgie d'un coin où on puisse s'asseoir, se retrouver, parler. C'est surtout ça, je pense. C'est pas que le jardin, parce que bon, on n'a plus de jardin, on a du béton, oui. On a de la terre et beaucoup de poussière. Merci la rénovation urbaine, merci nos poumons.
Eh oui, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, parce nos poumons. Voilà. Non, je veux dire, c'est vrai qu'ils ont pensé à faire maintenant du béton. Ils n'ont pas pensé aux habitants, aux personnes âgées, aux enfants, parce qu'à la limite, Picon est entouré de routes. On dit oui, mais vous allez voir, ça va être nettement mieux. Moi, je ne vois pas que c'est nettement mieux. Je trouve qu'on va être entouré que de béton. Et c'est
donc
grave.
Vous avez l'impression que les grandes artères aujourd'hui qu'on est en train de créer, la L2 entre autres, viennent cloisonner... enclavé davantage que le quartier par rapport au passé, quoi. Pour avoir quand même un regard, pour garder une certaine neutralité par rapport à ce que en opposition à ce que j'avançais tout à l'heure, tu parles quand même d'âge d'or avec un gardien assermenté, des horaires pour entrer, pas d'animaux. Donc, bon, peut-être que le quartier s'est ghettoisé progressivement, mais peut-être... lié aussi à cette migration et à cette migration, donc ce manque de mixité au niveau de la population, qui n'avait peut-être pas les mêmes repères, donc forcément pas les mêmes exigences. Qu'en pensez-vous, nos collègues, qu'en pensent nos collègues les travailleurs sociaux en devenir?
Non, mais... il ne peut pas prendre la parole, mais ce n'est pas grave.
Il y a un désengagement des politiques actuelles aussi sur justement ce fameux gardien assermenté, sur la volonté de créer des espaces de vie sur les cités populaires ou même en centre-ville, on enlève les bancs parce qu'il y a des SDF qui s'allongent dessus. Alors ça peut arriver une fois, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas que les SDF qui ont besoin des bancs, même si c'est un réel besoin. Et on peut voir ça au niveau politique nationale, de cette envie que les gens restent chez eux.
Est-ce possible ?
Pas. J'espère pas.
Non, on ne veut pas que ça soit possible, c'est bien pire. Parce que quand je suis arrivée, moi, il y avait le gardien déjà. On avait encore le gardien quand on est arrivée. Il y avait la loge du gardien dans la tour à Picon. Ouais, ouais. Et oui, on avait la loge du gardien et on l'a gardée, je crois, jusqu'en 96. Après, c'est vrai que le fait de supprimer certains postes dans... comme le gardien ou autre, ben, ça fait que... Je pense qu'on ne disait rien. On ne s'est pas rendu compte. Ça s'est fait, pas insinueusement, mais ça s'est tellement fait progressivement que on s'est même pas rendu compte qu'on nous l'avait enlevé. Après, ça a été... dès qu'on avait besoin de quelque chose, il fallait qu'on aille jusque chez le régisseur. Mais ça va, c'était le bâtiment d'en face. On était... pas très loin. À la date d'aujourd'hui, nos vieux sont obligés de traverser tout le quartier avec tous les travaux qu'il y a et les perspectives qui font que tous les jours le chemin change pour venir jusqu'à la Busserine pour payer leur loyer. Alors ils traversent toute la cité d'un bout à bout. Alors les permanences se font 3 jours par semaine et que l'après-midi. Voilà, mais c'est à 14h, c'est de 14 à 16. Est-ce que c'est bien judicieux ? Ils ont. Bon, d'accord, il y a eu des agressions verbales, mais peut-être qu'il faudrait écouter ces pauvres habitants. Pourquoi ? Pourquoi ils en sont venus à être autant agressifs ?
Quand on voit aujourd'hui ces agressions, comme tu dis, qui sont constamment élevées, hein, de plus en plus, ouais. On a mis en place des médiateurs de proximité.
C'est ça.
Il y a 2 ans, je crois.
Ça fait à peu près 2 ans.
Si comment ça se passe, Farid, juste avant, puisqu'on est en train de parler d'une période importante, on parle de tournant dans la vie du quartier, dans l'histoire de ce quartier. À quel moment tu parles de ce désengagement, de cette ghettoisation dont vous parliez ? À quel moment vous avez constaté que la réalité, la vie du quartier a changé ? Et quels en étaient les signaux ?
Ben, déjà, quand les personnes âgées décédaient ou déménageaient, les gens remplaçaient.
90 et 2000. Hein. Oui, ça s'est fait sur une dizaine d'années, tout petit, petit, voilà. Petit. Et voilà, en 2001, je crois, ou 2002, il n'y avait plus de centre social à Picon.
Oui, oui.
Donc déjà ça aussi.
Entre 95 et 2000, voilà. C'est là que ça a commencé à se faire progressivement.
Voilà. À ce moment-là, le quartier commençait déjà à changer. Hein.
Quelle structure ? Il y avait un centre social de Picon, c'est ça ? Oui. Qui a fermé quand ?
Je pense que c'est dans les années 2000, entre 2000 ou 2002 à peu près.
C'est à partir de cette période-là que ça a commencé à...
Ça avait déjà commencé, mais disons que ça a finalisé le fait qu'il n'y ait plus de centre social. Pendant longtemps, les habitants de Picon, ils ne savaient pas comment occuper leurs enfants les mercredis après-midi, où aller faire l'aide aux devoirs, comment pendant les vacances on gère des enfants, si tu ne les envoies pas sur telle ou telle structure.
C'était des signaux forts.
Forts, voilà. Hein. Donc, la fermeture,
plus de vie, plus d'animation au sein du quartier. Donc forcément, ça traduit un désengagement ou la fin d'une époque. Est-ce qu'il y avait d'autres signaux
Excuse-moi, avant... Oui, excuse-moi, Jean-Pierre, c'est important de soulever, avant que tu poses cette question, ce qu'on voit aujourd'hui, les centres sociaux, il y a le centre social Flamand-Iris, le centre social Agora et la MFA, qui sont en difficulté majeure aussi. C'est ce qu'on revoit, quand on voit le centre social de Picon qui avaient ces difficultés-là, on le revoit aujourd'hui.
Voilà. Donc tu veux dire que l'histoire se répète et que concrètement, ces signaux-là, ils réapparaissent aujourd'hui et donc ils sont les signes d'une histoire autre qui devrait se dessiner avec des problèmes à venir. Quels étaient les autres signaux ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réalités que vous avez en mémoire ? Moi, je pense à une très très forte qu'on trouve dans tous les quartiers de Marseille, le commerce parallèle. C'est une réalité que vous n'avez pas évoquée. Est-ce qu'on peut considérer que ça a été aussi, que ça s'est arrivé aussi dans ces années-là ?
C'est pas que c'est arrivé, ça existait déjà, mais c'était pas, comment dirais-je, c'était pas embryonnaire et puis c'était pas en façade. Faut dire la vérité, c'était pas en façade. Il se cachait. Donc il y avait pas la même ils avaient pas la même je veux dire maintenant vous les voyez à la rigueur ils s'en fichent que vous l'ayez vu. Il y a pas cet effet de discrétion et cette pudeur qu'il y avait avant parce que et puis d'abord ils ont je pense qu'il y avait moins de réseaux, mais après je ne m'avance pas parce qu'on ne les voyait pas tant que ça. On en avait et puis ils nous dérangeaient, ni ils te dérangeaient pas plus que maintenant, c'est pas ça que je veux dire. Mais à la rigueur, il y avait ce respect des anciens ou des adultes et des fois c'était des personnes c'était des majeurs. Maintenant, on trouve des mineurs. À l'époque, ils étaient beaucoup plus discrets et c'était des majeurs. Quand ils te voyaient arriver, ils prenaient le sas, ils allaient de l'autre côté. Nous, à la tour, comme c'était une double habitation, donc il y avait le sas pour les deux, ils passaient de l'autre côté. S'ils étaient en train de tenir une conversation ou quoi que ce soit, ben ils remontaient dans les escaliers. Il t'empêchait pas de vivre dans ton bâtiment.
En fait,
il était là en plus et pas inversement.
L'une des lectures que l'on peut avoir par rapport à ce phénomène du commerce parallèle, c'est qu'avant, c'était les enfants du quartier qui connaissaient les voisins. Ils se cachaient, ils se dissimulaient. C'était des jeunes adultes. Maintenant, les choufs, comme on dit, viennent souvent d'autres quartiers. Donc, ils ne connaissent pas la population. Aucune raison de se cacher, aucune raison de ne pas être naturel et s'ils ont de mauvaises manières, eh ben de rester nature. C'est une réalité, le public s'est rajeuni. La demande est constante puisque vu qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de consommation et il faut savoir que de nos jours, par rapport aux années 70-80, on a l'apparition de la drogue dure qui est venue renforcer le phénomène de marginalité et voilà. La drogue dure, ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même réseau et les réactions ne sont pas les mêmes.
Exactement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui,
malheureusement. La prolifération des seringues.
Exactement. Exactement. Par rapport à, excuse-moi, Jean-Pierre, c'est important, par rapport aux structures associatives depuis quand, pendant l'âge d'or, est-ce qu'il y en avait ? Qu'est-ce qu'il y avait comme structure ?
Alors, il y avait le centre social, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les bricoleurs, c'est justement ça. L'association des locataires, il y avait la... comment s'appelait l'association de foot les trois cités.
Non, mais il y en avait eu avant, bien avant que.
Qui faisait foot
bien
et
avant
boxe.
Qu'il y ait les trois cités, qu'il y ait tout. Il y en avait une autre aussi. Mais je ne me souviens plus de. Non,
oui.
Mais il y avait.
Ça, c'est les premiers. Je pense que dans tous les quartiers, il y a eu des prêtres ouvriers qui ont fait le lien. Ouais.
La police de proximité, il y avait.
Non.
On a connu les agents de sécurité qu'ils ont mis à l'époque.
Nous, on avait un agent de sécurité. Un agent de sécurité avec un maître chien dans la tour, par contre.
Oui, qui se baladait. Oui.
On a eu quelques feux aussi dans la tour, s'il te plaît.
Oui.
Quelques feux de scooter incendiés en pleine nuit. Et tu te retrouves à 3-4 heures du matin en train de descendre tes narines toutes noires.
Tout le monde, oui.
Ou alors tu mets une serviette bien mouillée et tu sors pas de chez toi Ben voilà, donc les pompiers qui viennent toquer, ils te disent vous avez le choix, madame. Ou vous sortez, ou alors vous restez enfermée dans votre appartement et vous mettez un linge humide sous pour pas qu'il y ait de la fumée qui rentre. Bon, ben voilà, donc tu descends pas tes enfants à 3h30 du matin alors qu'ils dorment. Tu mets un linge et tu restes chez toi. Quoi.
En espérant que l'incendie ne
prenne
pas...
Non, non, l'incendie avait été éradiqué, mais c'était juste en attendant de... Bon, c'est pas... Oui. C'est juste pour aller prendre froid dehors, c'est pas la peine.
Toujours pour rester à cette époque-là, est-ce que vous vous souvenez des repères identitaires, les grandes familles, les familles qui ont un peu marqué la vie de Picon? Avant vous, je me souviens de Marie de Santofanti, hein, Santofanti, donc qui était la passionnaria de Picon. Mais est-ce que vous avez en mémoire des noms de militants qui ont été un petit peu des repères dans ces quartiers?
Non. Ben nous, on a connu. Moi, je sais que personnellement, il y avait la famille Bellambri, qui ça fait Bellambri. Il y avait la famille Mesbar. Il y avait Madame Tarragonet, mais qui est décédée, qui était d'ici. Non, il y avait des grandes familles, je veux dire. Ils sont partis où moi j'ai connu... Oui, Adjiré, je l'ai... Non, je l'ai...
Il était un peu militant, mais c'est ça. C'était les enfants.
Ah, mais il y avait la famille aussi Corriche. La famille Corriche, qui était... Il y avait des grandes familles, hein, Corriche. Anna Diatto, la maman de... Anna Diatto, je crois, de Philippe,
oui.
Qui habitait...
Oui, il y a des... C'est vrai qu'il y a beaucoup
Émile,
de familles.
Émile.
Oui, monsieur Onolfo.
Onolfo, qui est...
Onolfo.
Oui.
C'est...
O-N-O-L-F-O.
C'était des familles investies dans leur quartier. Comment
oui.
Ces familles-là?
Oui, monsieur Onolfo, bon, ben, il a connu, c'est d'ailleurs la petite anecdote du jardin et de l'amande. Il a connu le quartier au début, à sa création, on va dire.
Années 60.
C'est ça. Et il y est encore, d'ailleurs, à la date d'aujourd'hui. Il est dans des petits bâtiments maintenant. Et ça fait une dizaine d'années, je pense, qu'il s'occupe de l'association des locataires à Picon, avec tous ses hauts et ses bas. Bien sûr, bon, aidé par des habitants, bien sûr. Bon, mais après, c'est comme pour tout. À un moment, il y a du désengagement quand tu n'es pas écouté en face, quand tu te fais tes doléances.
La famille Cadry aussi, hein,
oui.
qui est ancienne, hein, dans le quartier. Hein,
c'est ça.
Et qui
mais
sont
après,
encore.
Gérard, je ne connais pas son nom de famille,
non.
Mais ça fait très longtemps qu'il y habite aussi.
Oui, parce qu'il était, voilà. Il habitait avant.
C'est sa maman avant.
Il y a la famille Aïssa Duhache, il y a la famille Benhamer. Qui était à Picon, enfin qui maintenant ils sont toujours à Picon, hein. Oui. Non mais je te parle des familles qui sont arrivées avant nous.
Il est très porteur et très militant, très connu.
Mais avant les gens, ils se contentaient de parce qu'ils avaient une vie bien. Je veux dire, ils avaient un toit, ils avaient un endroit pour sortir leurs enfants, ils avaient l'école, ils avaient les centres sociaux, ils avaient un bus pour aller en ville de temps en temps, parce qu'avant, c'était pas la consommation. Maintenant, on est toujours dans les magasins, alors qu'avant, ils faisaient leurs courses pour le mois. Le mari a ramené le salaire.
Surconsommation, donc.
Voilà, maintenant, on est sur quoi Oui, et puis avant, on allait pour habiller les enfants. On allait un peu en ville, à la porte d'Aix. Et puis voilà, les gens... Donc, je veux dire, ils n'étaient pas comme maintenant. Maintenant, ce n'est pas qu'on en veut plus. C'est que maintenant, il y a des choses qu'on voit et qui ne nous plaisent pas. Parce que c'est vrai que les politiciens, ils ont tout fait pour que ces gens... Et vivent, je veux même pas dire, je me plains pas, mais quand je regarde le passé et le futur, ça fait peur.
Inquiétude.
Ça fait peur.
Ce qui est intéressant, Farida, avant il y avait pas de problème de mobilité pour les habitants. Ils partaient, ils allaient en ville, ils restaient pas dans le quartier.
Oui. Puis il y avait pas toutes ces voitures.
C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que la difficulté majeure, c'est que les habitants ont du mal à, voilà, à s'investir ailleurs.
Sortir.
Voilà.
Mais moi, comme je disais, tu sais, quand mes enfants, ils étaient petits, j'avais pas de voiture. Donc, quand on allait à la plage, je sortais mes enfants, on prenait avec deux, trois voisines. Chacun prenait son sac à dos avec son sandwich. Non, mais les enfants, ils prenaient déjà toutes leurs affaires. Moi, je voulais qu'ils se gèrent. Je prenais une glacière ou un couffin pour des choses de surplus, les rechanges, tout ça. Mais ils avaient leur sac à dos, leur bouteille, ils avaient tout. Je voulais... C'était mieux à l'époque, les enfants... On les gérait, on arrivait.
Vous responsabilisiez en fait. Chacun voilà. avait son sandwich, ouais. sa bouteille d'eau, etc., ouais. sa casquette.
Oui, oui. Ouais. Que maintenant, les enfants, je veux même
ils
pas
sont
dire...
davantage livrés à eux-mêmes.
Mais tu sais, quand tu vois 3 ans, tu as déjà un iPad, tu as. Bon, c'est vrai que je ne veux pas dire que maintenant on vit, il faut vivre avec. Mais il n'y a plus. Avant, il y avait le bébé. Il y avait le nourrisson, le bébé, l'enfant, l'adolescence. Maintenant, tu vois plus cette différence d'âge. L'adolescence, tu ne sais même plus. On disait à l'adolescence, tu rentres en crise d'adolescence à partir de 12, 13 ans jusqu'à 17 ans.
Oui, c'est vrai que la société a bien changé son regard et que avant il y avait les besoins primaires, les besoins secondaires qui étaient satisfaits et puis maintenant la société moderne, la surconsommation, on incite à acheter les portables, les ordinateurs et forcément cela crée des faux besoins.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, malheureusement par rapport à la société de consommation qui est impactée de partout. À l'échelle de tous les pays, il y a une communication virtuelle. Il n'y a plus le côté humain. C'est ça qui est grave. Et ça pose vraiment le problème, quoi. C'est vrai que les gens s'enferment avec leur ordinateur, avec leur portable.
On a moins besoin d'aller échanger avec son voisin quand on est dans un monde imaginaire et virtuel. Exactement. C'est vrai que pour les jeunes, les échanges ne se font peut-être pas tels que vous, les parents, vous les faisiez, puisqu'effectivement, Farid a raison de le souligner, la vie moderne a amené aussi un bonheur beaucoup plus factice et virtuel.
On va faire une pause musicale. Et on se retrouve juste après.
Halku berkeibu ciro iftinka
Toujours en direct au sein du comité Mamega, coup de projecteur sur les habitants de Picon, à présence de Farida Gawa et Nadira Amzaghi. Voilà, merci d'être là. Et deux stagiaires de l'IRTS, Aïda et Florent, de l'IMF. Aïda et Sophie, voilà.
Avec des yeux qui pétillent et des sourires qui nous éclaboussent. Non, donc...
juste avant de passer la parole à Farida et à Nadira et surtout à Jean-Pierre, reformuler un petit peu le comité Mamega est une structure qui lutte contre l'illettrisme et l'exclusion générale à la mémoire de Madame Françoise Ega, une habitante de quartier. Qui a beaucoup milité au sein de ce territoire avec pas mal d'habitants, militantisme présent qui est aujourd'hui aussi présent mais moins qu'hier, mais bon, on en parlera peut-être une autre fois, et réalisé et produit par le comité Mamega et Radio Galère. Et je vous invite aussi d'aller sur le site du Vivre Ensemble qu'on a créé avec l'ensemble des partenaires du Grand Saint-Barthélemy, et vous cliquez le Vivre Ensemble du Grand Saint-Barthélemy.
www.vivreensemble.org. Voilà. Vous cliquez sur le Grand Saint-Barthélemy et vous allez dans la rubrique Les Acteurs. Notamment, vous verrez donc toutes ces héroïnes qui ont, et ces héros d'hier qui ont construit notre quartier et auxquels viennent se rajouter donc Nadira et Farida, donc avec leur regard neuf, vierge, sur ce quartier qu'elles ont pourtant chevauché en long et en large, et elles nous rappellent un petit peu les histoires d'antan. Donc parmi ces histoires-là, il y a tout à l'heure, nous évoquions hors antenne la vie de ce centre commercial et les relations de Carrefour Le Merlin avec sa population. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Farida ?
Alors moi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à l'époque, je ne sais plus en quelle année, donc quand on allait au centre commercial, c'était quand même pour aller acheter le plein pour le mois ou pour les quinzaines. Alors donc, je partais à pied, bon, naturellement, je ramenais mes enfants avec moi et je remplissais bien mon chariot. Mais pour le retour, il y avait un hic. Alors soit je prenais le taxi ou soit je revenais avec mon caddie jusqu'à Picon. J'ai essayé de le faire une fois, mais c'est le parcours du combattant. Parce qu'il faut descendre la pente de Carrefour, il faut revenir sur la Busserine, après il faut aller sur Picon. Donc des fois les trottoirs ne sont pas très où il y a... Donc je galérais.
Mal adapté au chariot de Carrefour quand même.
C'est cela.
Voilà. Arrivé à la tour, ben, j'étais obligée, voilà, il fallait monter dans l'ascenseur et vider le chariot. Et puis après, bon, on le mettait dans un endroit qui ne gênait pas les voitures parce qu'on savait qu'il allait avoir une petite camionnette ou un petit camion qui faisait le ramassage des chariots.
Ou alors, ces chariots pouvaient avoir une seconde vie et servaient de skateboard géant les enfants du quartier qui cabossaient
qui jouaient avec
les voitures.
Est-ce que c'est vrai, Farida ?
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, une fois, j'ai voulu ramener le Carrefour. Alors, mon fils était petit, je l'ai mis dans le chariot et puis j'ai remonté. Mais alors, je n'ai pas été jusqu'à Carrefour parce que ce n'était pas possible. Il fallait tout remonter et tout. Et autrement, bon, on avait le taxi. Alors, donc, souvent, les taxieurs, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a encore des taxis à l'entrée de Carrefour. Parce que les gens, quand ils achètent...
Ils y sont toujours.
Et ils travaillent peut-être moins qu'à l'époque. À l'époque, c'est vrai que les taxieurs, ils savaient, surtout les débuts de mois, hein, quand les gens avaient encaissé, les taxis se régalaient. Hein. Ils en avaient pour 10 jours de la course du mois. Hein. Ça, c'est super. C'était... Voilà.
Et est-ce que c'était cher, ces courses-là, pour aller de Carrefour, le Merlin,
à Picon ? C'était en francs. Je ne sais pas si c'était 5 ou 6 francs. Ou ce... Bon, de toute façon, ça dépassait pas les 10 francs. Ouais. Parce qu'on remplissait le coffre. Alors, je veux dire, ils ne pouvaient pas nous prendre par article parce que ça nous aurait coûté les yeux de la tête. Mais c'était pas grave. On préférait payer 10 francs, mais on avait les courses du mois.
Alors, qu'est-ce qui a mis fin à cette déambulation donc, des taxis dans le quartier ? Comment vous expliquez qu'est-ce qui a changé ?
Ben, ce qui a changé, déjà, ils ont refait d'autres commerces. Donc, oui, il y a d'autres commerces, plus le bus. Alors, de Picon, vous avez quand même 3 bus. Vous pouvez aller, bon, ça change chaque fois d'enseigne, c'était... ED, Aldi, Carrefour Market, on pouvait aller plus facilement. Oui, mais... Et puis il y avait Casino, le Casino de Saint-Gabriel. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant, les bus, bon, puis en plus, je vais vous dire, on avait souvent la carte de bus qu'on avait gratuit. Donc, préférais prendre le bus gratuit que de payer. Moi, j'avais la carte parce que je me payais, parce que je travaillais. Donc, j'avais la carte au mois. La carte Azur. Azur, oui, que mettait le... que même la carte Azur, à l'époque, c'était un ticket. Et puis, il fallait mettre la date, son nom sur le ticket.
Ce qui est intéressant, c'est qu'avant aussi, c'est que les taxis, ils n'étaient pas chers, certes. C'est vrai que les achats, quand on faisait les achats, les prix n'étaient pas chers du tout. Le pouvoir d'achat n'était pas trop, voilà, trop très très
très élevé.
Voilà. Ouais, ouais. Quand on voit, il y avait quand même, voilà, il y avait quand même aussi le plein emploi. Hein, ce temps-là, et aussi, ça fait que ces gens-là se permettaient, voilà, de travailler à l'aise, je veux dire, voilà. Même quand il y avait les bidonvilles, qui c'est qui a travaillé ? C'était des travailleurs détachés des pays d'Afrique du Nord, c'est
oui.
Ça. Et c'est
ils
ça
faisaient des 40 heures par semaine.
Voilà. Concernant la réhabilitation, Nadira, tu voulais aussi sur les commerces.
Les commerces, c'est vrai, le fait qu'il y ait eu d'autres commerces, mais c'est vrai que le plus, c'est l'arrivée du 33 a changé la vie du quartier,
oui,
dans tous les sens du terme. Nous, déjà, en nous, ce prolongement vers le centre-ville, mais aussi nous permettait de remonter vers Carrefour Le Merlin et de redescendre. Bon, pauvres taxis, ils ont perdu beaucoup d'argent, mais la RTM y a gagné. Bon, par période, un attroupement, certes. Mais ce bus a rendu service à beaucoup d'habitants quand même, en étant là pour tout, même pour ne serait-ce que le minimum, pour redescendre vers la Belle de Mai ou pour où il y avait le marché, voilà. Comme disait Farida, c'est vrai que l'arrivée d'autres enseignes moins chères, on va dire, puisque c'est vrai qu'avec le changement, les prix ont augmenté et tout habitant de quartier avec son petit pécule avait besoin de vérifier et de ne pas payer non plus trop cher.
Puis il y a les discounts, c'est pour
voilà,
ça.
Voilà, les discounts aidant.
Est-ce qu'en 2000, l'arrivée de l'euro a impacté le portefeuille des ménagères que vous étiez ?
On ne l'a pas senti tout de suite. Bien qu'on n'arrête pas de nous rabâcher que l'euro n'a pas changé grand-chose.
Ah si, 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 si.
Mais moi, je trouve que quand même, il a changé beaucoup de choses. Parce que avant, juste au changement de l'euro, oh, le truc tout bête, les cigarettes, oui. 25 francs, voire 30 francs à l'époque, au passage à l'euro, on est passé à 50 francs.
Ouais, mais moi,
du simple au double.
Ouais, ouais.
D'accord.
Mais ça n'a pas changé grand-chose, d'après eux.
Mmh.
La baguette, on payait quoi ? 3 francs ?
Ouais.
On est passé à 75 centimes.
Mmh.
Même si
francs.
Je calcule...
30 centimes, la baguette.
30 centimes.
c'était, ou 30 centimes.
C'était 60,
la baguette.
60 centimes, c'était 60 centimes, me semble.
C'est passé à 60 centimes de francs, d'euros.
De, mais c'était franc. En francs,
en c'était... France, c'était à 3 francs. 2 euros, 2 francs 50, 3 francs.
Je suis plus, je suis à 30 centimes.
La baguette à l'époque. Farida, l'euro, t'as fatigué.
Oui, maintenant, je suis vraiment à l'euro.
L'euro fatigue beaucoup.
J'arrive plus à me remettre en francs.
Il y a plein de choses comme ça. Le kilo de pâtes.
Alors, pour conclure, puisqu'il ne nous reste que 5 minutes pour conclure, concrètement, avant, donc, on va consacrer un petit peu de temps à la réhabilitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, la réhabilitation de Piquant ? Est-ce que ça a été un grand changement ? Ça a apporté un grand changement pour les familles ? Est-ce que vous le considérez que c'est une réussite ou pas ?
En termes de bâti, c'est peut-être une réussite pour les logeurs. Mais pour les locataires, c'est pas le meilleur, on va dire. Il y a beaucoup de contre plus qu'il n'y a de pour.
Oui.
Voilà. Premièrement, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu du métrage. Toutes celles qu'on a isolées, parce qu'ils ont isolé un appartement sur deux dans les blocs. C'est-à-dire que tout le côté gauche a été isolé, mais pas le côté droit, puisque c'est la séparation qui est isolée. Donc, ceux du côté gauche ont perdu des centimètres sont devenus des métrages à la longue dans leur appartement.
Dans les pièces.
La superficie, elle a été rétrécie. À aucun moment, ils ont pensé à nous faire, dans toute cette réhabilitation, à nous faire des placards. Ça ne leur vient pas à l'idée. On n'a pas besoin d'avoir des vrais placards. Ce n'est pas important. On nous a donné des caves qui ont... On nous a réattribué des caves qui ont été inondées il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Certains travaux ont été refaits. Donc, double travail. Et mal fini.
Moi, je voulais dire, au niveau de, comme tu dis, les gens perdent. Là, on nous dit, oh, mais vous êtes mieux maintenant. C'est trop beau, Piquant. Ah, je dis oui, vu de l'extérieur. Ah, maintenant, ils nous ont mis des terrasses. Sûr, parfait. Moi, je me mets à ma terrasse. Toute la journée, j'ai ces camions qui défilent. Le matin, on est réveillé à 6h30. Ça fait 3 ans, ils nous ont mis des terrasses pour qu'on subisse tous ces travaux. On nous dit, mais vous allez voir, après, ça sera bien. Mais après, j'ai dit, mes poumons, ils ont pris je ne sais pas combien de pollution. Je vais peut-être mourir avant que les travaux vont finir.
Non, fondamentalement.
Non, mais ils te mettent... Alors, je vais te dire, moi, je me suis battue avec eux. Alors, ils nous ont mis des vérandas dans les cuisines.
Trop bien, notre véranda.
Très bien.
Côté nord, et elle est marron.
Vous avez des vérandas, vous ouvrez la fenêtre. D'un côté, c'est tout noir. Vous avez des petites fenêtres dans les cuisines. Donc, on n'a plus de clarté. Ah non, il n'y a plus de clarté.
On allume la lumière en permanence dans la cuisine.
Moi, vous savez, j'habite en rez-de-chaussée. Qu'est-ce que j'ai fait dans le carré qui est noir? J'ai scotché du blanc. Parce que j'avais l'impression que quand j'étais dans ma cuisine, j'avais mis un rideau noir dans ma fenêtre. Oui, oui. Et pour couronner le tout, dans les rez-de-chaussée, ils ont dit, comme il n'y a pas de sécurité à Piquant, parce que les gens se font agresser, puis que tout le monde... Donc, ils ont décidé de nous mettre des barreaux.
On a des barreaux de protection en aluminium pour
mais
les rez-de-chaussée.
Je ne vous dis pas. Quand vous vous mettez en face, vous ne pouvez pas regarder sur les côtés. Vous pouvez voir qu'en face de vous. Alors, moi, quand ils sont venus chez moi...
Par rapport aux barreaux qui sont très épais, en fait. Oui. Et qui obstruent, ils obstruent.
Oui, de la vision. Moi, je leur ai dit non. J'ai dit, si vous avez mis des vérandas avec un double vitrage, si c'est sécurisé pour les gens du premier, deuxième, troisième, donc chez moi, ça devrait être sécurisé. Vous n'allez pas me dire que celui qui met un coup de pied rentre chez moi. Alors, c'est grave pour les gens des étages. Donc, je n'ai pas voulu. Ils m'ont dit, mais on a commandé et tout. Je dis, mais vous savez quoi? Vous gardez la grille dans un local où vous l'entreposez. Puis le jour où je meurs ou que je m'en vais, ben vous l'installez. Et ben tellement que et ils sont tous venus, les responsables, comme j'ai dit, pourquoi l'architecte ne le met pas chez lui?
Quel est votre logeur?
La Logirem.
La Logirem, il faudrait demander à ces messieurs des architectes si vous avez d'autres travaux à faire. Venez voir Farida et son ami qui viendront vous donner quelques conseils.
Eh oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à l'architecte. Et donc, pour finir, eh ben, je n'ai pas voulu qu'ils mettent les barreaux. Eh ben, j'ai eu gain de cause. Eh ben, tout le bâtiment F n'ont pas de barreaux côté cuisine.
Farida, une question. On a, vous avez bloqué à un moment donné le chantier de Picon. Il y a 6 mois.
Non, il y a 1 an.
Il y a 4 mois. Hein.
Il y a 1 an.
Oui, il y a un an.
Et on a fait venir le préfet de l'égalité des chances, qui est venu, qui a constaté les dégâts, tout ça, et qui a soulevé le problème, notamment aux responsables de Marseille Rénovation Urbaine et plus les logeurs de HMP. Non, de l'OGIREM.
Voilà.
Et est-ce qu'ils en ont tenu compte ou pas ?
Eh bien, alors, on s'est battu pour obtenir. Donc, il fallait prendre des rendez-vous. Il y a une délégation qui est partie au niveau de la préfecture. Donc, après, le préfet devait venir sur Picon. Enfin, il est venu. Il est venu avec sa petite délégation et avec le directeur, le président de la LOGIREM, M. Pinette. Enfin, c'est plus lui maintenant, il est parti. Ben, qu'est-ce que vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait le tour de Picon à 5h de l'après-midi, en 10 minutes. Et puis, c'est très bien. On n'a pas eu de réponse. Picon continue. On a fait une manifestation, on a fait des grèves, on a bloqué parce qu'on ne voulait pas de la route. Mais on nous a dit que les habitants avaient été concertés. Ce n'est pas vrai. Les habitants n'ont jamais été concertés. Si vous avez pris 10 habitants que vous avez payés ou bien des habitants qui sont avec vous, mais qu'ils ont voté, la loi de la route, ça fait plus de 10 ans qu'elle est votée. Et c'est au bout de 2 ans là, qu'on nous parle d'une route. Là, il y a plein de choses qui se font. On ne sait même pas ce qu'ils font. On ne sait pas parce que chaque fois, ils nous font quelque chose.
Alors, messieurs les architectes, si vous voulez améliorer votre savoir-faire, Vision de Femmes accueille des stagiaires pour plus d'efficacité, de pertinence et pour le bien-être de la population. Avant de construire, de proposer une réhabilitation telle qu'elle est faite aujourd'hui dans beaucoup de quartiers, il serait bien de venir à travers un appartement témoin, de demander à la population qu'est-ce qu'ils pensent de vos travaux.
Voilà. Ce qui est important, Jean-Pierre, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Pourtant, il y avait un plateau de concertation proposé par les habitants.
C'est fait tel que Fatima nous le dit, Farida nous le dit.
Exactement, ça n'a pas tenu compte. Quoi. Et jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que je parle de discrimination de territoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quoi. Et c'est là qu'il faut se poser la question, voilà, c'est pour ça. Et quand on voit des structures aussi associatives qui commencent à fermer, ça pose vraiment un problème de plus en plus. Quoi.
Alors, quel est votre regard, en fait, pour conclure sur cette transversalité Picon ? Quel est le regard que vous portez sur Picon d'aujourd'hui ?
Eh ben moi,
quel sentiment vous habite ?
Je vais te dire après, Nadira, tu prendras la parole. Moi, Picon d'aujourd'hui, je vois un embellissement de l'extérieur. Attention, l'intérieur, rien n'a été fait. On ne peut pas refaire un appartement des années 60 avec des volumes de maintenant ou des... nous, c'est des cages à poules qu'on a à l'intérieur. Quand on vous dit, vous avez droit à 3 prises par logement quand vous avez un T7 ou un T6.
Farida,
c'est grave.
C'est 3 prises pour tous les appartements.
Oui.
Que tu aies un T1 ou un T7.
Oui, mais c'est pas normal. Ce n'est pas cohérent. Hein. C'est pour ça qu'on te met... ils sont venus chez moi me mettre, je ne sais pas quoi, un tuyau. 3 prises par appartement.
En plus.
Et puis, comme j'ai dit, quand il m'a dit ça, l'électricien, je n'ai pas réagi sur le moment. Mais j'aurais dû lui dire 3 prises pour un T2, mais pas pour des grands appartements. Là, ils sont en train... Oui, là, ils veulent faire partir. Ils voudraient que les gens déménagent. Ils ont besoin des grands logements. Mais le problème... Quand ils ont fait la réa ou qu'ils ont reconstruit, pourquoi ils n'ont pas commencé par les personnes âgées, leur demander s'ils voulaient partir pour un T3, un T4, mais en rez-de-chaussée. Là, c'est maintenant que tout le monde est logé, ils veulent que les personnes âgées déménagent, mais ils restent que des 4e étages, sans ascenseur. c'est pas le monde à l'envers. Comme j'ai dit avant de commencer, fallait commencer par ça. C'est normal que les gens veulent pas partir. Ils vont avoir un petit appartement, ils vont payer le même prix que pour un T2. C'est bon, on reste où on est.
En tout cas, franchement...
Question de bon sens. Ouais,
on a tenu compte et c'est intéressant. Et il faudra garder quand même un fil conducteur par rapport à ce qu'on a entendu. Parce qu'on fera une émission sur la thématique logement avec les fameux... on interpellera aussi les responsables de l'OGIREM. On verra avec eux parce que moi, je trouve que c'est important. Voilà. Jean-Pierre, pour clôturer, Nadira, en tout cas, clôturer. Avant de terminer
l'impression de Nadira sur le piquant 2017-2018.
Ben, le piquant 2017 fait peur, puisque avec tous ces travaux, à aucun moment ils se sont intéressés de la santé en général de toutes les personnes qu'il y avait dans la cité, des vieilles personnes et des moins vieilles, parce que du coup, avec tous ces travaux, toute cette poussière hein, qui tourne toute la journée, LE2 d'un côté et rénovation urbaine et nouvelle construction de l'autre côté depuis à peu près 3 ans, et c'est récurrent, tu es assis dans ta salle à manger, puis d'un coup, tu te mets à vibrer.
Chez moi, ça bouge.
Ah, tu as laissé ton téléphone dans ta poche. Ah ben non, c'est les travaux.
Si c'est régulier, tu vibres.
Non, mais c'est bien.
Je vous dis que moi, ma porte-fenêtre de cuisine, donc j'ai la véranda et j'ai la porte-fenêtre de cuisine. Tout l'été, ma porte-fenêtre est restée ouverte, donc ça veut dire qu'elle était contre le mur. Quand il a fait froid il y a 2-3 jours, ou il y a une semaine, j'ai voulu la fermer, mais c'est qu'elle ne se ferme plus. Tellement que ça a bougé.
C'est dévissé.
Non, c'est pas dévissé. Il y a ça en plus, en moins.
Il y a du jeu maintenant.
Donc non, il y a plus de jeu. C'est que maintenant, il faut que je sais pas comment ils vont faire. Je les ai avertis, ils doivent venir. Et pour conclure, je voudrais dire encore une chose. J'ai dit, on s'est battu. Bon, par rapport, il y a des associations, on s'est battu seul quand même. Et moi, j'ai demandé, je comprends pas où sont les politiciens. Quand ils ont besoin de nous, ils sont tous venus nous voir. Hein. Ils avaient besoin des voix des habitants. Et maintenant, ils sont où ? J'en ai pas vu un, venir faire le tour, dire, prendre les doléances des gens. Rien.
Il faut faire un bon couscous en général. Ils viennent.
Non. Moi, j'ai dit, tu sais.
On va arrêter les couscous et les barbecues.
Je vais te dire une chose. Moi, j'ai l'association, les Fatima de service. C'était avant. Maintenant, il n'y a plus de Fatima de service. Moi, maintenant, s'ils veulent venir à mon association, c'est à eux de nous payer. Ce n'est pas à nous. Merci bien. Au revoir.
En tout cas, juste pour clôturer, merci Farida. Hein. On en tient compte et il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à ne pas baisser les bras.
De courage.
Et nous aussi, on vous soutient avec l'ensemble des partenaires du Grand Saint-Barthélemy. Je veux dire, on est là, on sera toujours présent pour vous. En tout cas, pour clôturer, je tiens à remercier Nadira Amzagri. Farida Gawa, Vision de Femmes, merci beaucoup. Voilà. Jean-Pierre.
Merci pour ce regard de femme. Voilà. Pour ce regard d'habitant sur la vie de ce quartier.
Exactement.
Pour toutes ces émotions que vous avez éveillées en nous. On regarde la nouvelle génération et peut-être que nos jeunes futures assistantes sociales peuvent proposer dans le cadre d'une enquête sur la santé publique de voir avec le pharmacien et les médecins du quartier quel est l'impact qu'a pu avoir la L2 sur la population et de sûr que vous aurez de grandes surprises.
Pour terminer, juste pour dire en tout cas merci à Aïda et Florence et Sophie d'être là aujourd'hui, décidément. Voilà. Juste pour vous dire que le mois prochain, nous allons faire une émission de radio à la mémoire de Françoise, de Odette Tarragonnet, une habitante de quartier qui nous a quittés maintenant il y a plus de 6 ans. Qui était présidente de l'association de locataires de Saint-Barthélemy 3 et qui a eu la Légion d'honneur aussi, qui était, voilà, Voilà. Et je n'en dis pas plus. On en fera. Jean-Pierre, tu veux dire un mot sur Odette? Non.
Odette était une militante associative du quartier, grande gueule, hein, qui avait de la gouaille comme beaucoup de femmes, femmes à poigne de ce quartier. Et à un moment donné, je crois qu'il faut crier pour se faire entendre. Voilà. Et Odette était d'origine arménienne et donc faisait partie des mamans de ce quartier.
Pourquoi Odette Aragonais? Parce qu'on va inaugurer une rue. Bientôt, le mois prochain, on vous en dira plus lors de l'émission de radio. Merci et au mois de novembre. Au revoir.